seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle in Lenny Wilkins.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est également présent sur Facebook et Insta. N'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphite.net. Graphite, G-R-A-F-H-I-T, hein. Et même la podcaster sur podcloud.fr en tapant, bien sûr, Money Time. Aujourd'hui, et à l'occasion de la prochaine émission, Money Time vous propose d'explorer le basket à une échelle autre, dans un univers différent de celui qui est porté sur la grande scène médiatique, loin des projecteurs, mais on va aborder, on va découvrir des héros locaux qui ont leur histoire à nous conter. Elle est souvent passionnante et singulière, et elle mérite qu'on s'y attarde en détail. Alors aujourd'hui, on va partiellement délaisser la douceur du parquet pour la rugosité de l'asphalte, parce qu'il existe plusieurs baskets, et celui sur lequel on fera un focus dans cette émission, plus spécifiquement, se joue sans arbitre, sans lancer franc, en musique souvent. Ce monde loin des systèmes d'un coach débarrassé du chrono et dont les joutes s'achèvent dès qu'une équipe a atteint les 21 points, c'est celui des playgrounds qui ont fait naître au minimum des vocations, bien souvent des rêves, plus rarement des légendes, mais toujours du plaisir. Money Time ne pouvait pas ignorer ce qui constitue une culture parallèle de la balle orange, un univers underground qui échappe aux règles, aux médias, mais pas au respect. Cette émission est la vôtre, cette émission est la leur. Welcome into the cage. Et voici la team de All-Star pour animer cette émission. Plus dur que du béton, plus tranchant qu'un grillage éventré, mais aussi plus blessant parfois qu'un tesson de bouteille sur le bitume. Salut Mehdi.
Salut les potos.
Va ?
Ça va, toujours.
Elle a brillamment passé son baptême du feu à l'occasion de la dernière émission. La WNBA n'a pas de secret pour elle. La part de féminité et de délicatesse dans ce monde de brut qui nous manquait cruellement. Salut Marie.
Salut tout le monde.
Ça va ?
Ça va très bien.
Alors évidemment, on ne pouvait pas consacrer une émission au basket street sur Compiègne sans y convier son grand prêtre. Le bitume fut le théâtre de ses exploits au siècle dernier. Car ne vous y trompez pas, cet homme approche le demi-siècle. Je m'appelle l'ancêtre, hein, je me venge. De l'émission, il est le daron, le maître des sablons, NSH, où Rémi nous accompagne notamment pour envoyer du bon son pendant l'émission.
Salut à tous.
Ça va ?
Salut les players. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté en fait.
Ouais, bah oui. Ouais, en général, normalement, c'est,
ouais, c'est ça.
Qui est aux manettes, qui est aux commandes.
Donc plein d'émotions là ce soir.
Bon, super. Alors justement, autour de cette table aussi, on a la chance, on a le plaisir de recevoir un petit panel de joueurs qui sont emblématiques des sablons quand même, on peut le dire les gars, non ? Vous êtes un peu l'âme des sablons ?
Un peu.
Ouais, un peu. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement. Approchez-vous des micros, parce que c'est vrai que le micro est trop petit pour l'assistance. Allez, vas-y, présentez-vous vite fait.
Alors, moi, je m'appelle Abdoul. Je suis un passionné de basket. Je joue au sablon depuis plusieurs années maintenant, grâce à Rémi, a.k.a. NSH, qui m'a initié sur ce playground.
Pas de problème.
Ok.
Jacques Touk, poste 6, canapé rouge, tacos 6 viandes. Toujours là pour le skate-bas, pour le basket, ce sont tous assez liés. Donc effectivement, gros consommateur des sablons. Et on a parlé de rêve tout à l'heure et on fera en sorte à ce que les sablons montent en puissance. On a des idées pour le terrain.
Ah bah justement, tu vas nous en faire part après, hein. C'est bien. Vas-y, à toi.
Bah, moi, c'est Fessal. Joueur des sablons aussi, joueur de basket. J'ai commencé il y a quelques années et ouais, c'est un plaisir d'être ici et de parler du playground et du basket en général avec vous.
Ouais, parce que c'est un peu votre quotidien, enfin, on veut dire franchement, c'est un peu votre spot, hein. Vous faites vivre cet endroit dont on va parler, qui est mythique quand même dans le secteur. Il nous reste un invité, alors vas-y, présente-toi aussi.
Moi, je suis un peu timide, hein.
Vas-y, c'est pas grave, tu vas me décoincer.
Kizzy, tout le monde me connaît ou personne ne me connaît pas, voilà, c'est tout seulement.
Bon, bah du coup, je vous laisse vous faire votre avis. Bah, balance ton prénom quand même.
Non, j'ai dit.
Ok.
Il est mort.
Ok. Bon, alors, je vais terminer quand même par le meilleur. Enfin, un homme dont le physique est aussi gracieux que la voix est mélodieuse, drôle et subtil à la fois, mais orchestrant tout ce beau monde d'une main de fer. Applaudissements pour Wham, s'il vous plaît.
Ouais.
Ok.
Merci à toi.
C'est un vrai plaisir de vous avoir tous. Vous savez que Money Time, c'est l'émission basket de Graphite. Émission un peu underground, qui aime bien explorer un petit peu toutes les facettes du basket. On espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite l'actu, puisque vous savez que l'actu a des rubriques régulières. On va commencer avec la rubrique actu. Alors c'est parti pour notre rubrique Actu, et aujourd'hui, comme d'habitude, on n'évoquera pas un sujet. Aujourd'hui, ce sont les rumeurs autour de Kevin Durant, annoncé à San Antonio, à Houston, à Miami, mais aussi à La Croix, Clairoy, Marny. Donc non, franchement, là, à un moment, il faut arrêter les spéculations, hein. Donc surtout qu'on voit que personne n'avait vu venir le seul trade, entre guillemets, qui s'est produit ces derniers jours et qui a déjà fait l'actu et rebondit directement dessus. Desmond Bane qui rejoint le Magic, Orlando Magic.
Très bonne pioche.
Très bonne pioche, ouais. Alors, oui, effectivement, pardon. Voilà. Deux joueurs mineurs d'Orlando font le chemin retour. Alors,
mineurs, oui, mais avec du
vécu.
Ah, du salaire de dingue, hein. KCP, c'était encore 28 millions l'année, ils l'ont quand même bien acheté.
Ils l'ont payé, ouais.
Ils l'ont payé, Memphis, et ce que recherchait Memphis, c'était les tours de draft. Alors, ils en ont 4, plus 4 un cinquième avec les Suns, où ils vont pouvoir leur piquer leur tour de draft. Mais c'est cher payé pour Bane, mais moi, je trouve que c'est le bon move, parce que c'est vraiment le poste où Orlando était faible.
Alors, et adresse à 3 points,
défenseur. Et lui, il a une adresse à 3 points, il est à 42% sur la saison. Ça commence et c'est un sacré défenseur. Hein.
Ouais,
il y a un peu de biceps.
Ouais, il y a du muscle. Hein. C'est vrai que son physique fait un peu penser au mien. Je peux dire clairement. Clairement. Desmond Bane, ouais, c'est un très bon joueur.
C'est vrai
que la contrepartie, on n'a pas parlé de Cole Anthony aussi qui fait le chemin. Bon, voilà.
Ah, il sort pas d'une bonne saison, Cole Anthony. Donc,
Par contre, c'est vrai que ça soulève des questions. Les gars, vous qui suivez aussi un peu le basket, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert? Il y en a un qui veut se mouiller ou...
C'est un bon move. Après, moi, j'attends de savoir ce que Memphis va prendre à l'aile aussi derrière. Parce que s'ils prennent un bon ailier, pour le coup, je pense qu'ils sont pas trop mal.
Ouais.
Parce qu'ils ont quand même KCP, avec l'équipe qui est déjà en place. Avec un ailier en plus, Memphis, ça peut faire mal pour Orlando, c'est gagnant, clairement. Après, c'est toujours pareil. C'est pour aller viser le titre ou pour viser les finales. Ça me paraît
un
peu léger, mais en tout cas, c'est plus fort. En tout cas, c'est plus fort. Ah
ouais, moi, je pense maintenant, ils ont quand même le joueur en plus pour passer le premier tour des playoffs.
Oui.
Là où ils stagnent depuis deux ou trois saisons, là, je pense qu'ils ont pris le bon pic pour aller plus loin en playoffs. Parce qu'il faut savoir qu'il va quand même y avoir du monde à l'Est qui va essayer de dégraisser.
Du monde au balcon.
Ouais. Boston qui va limite faire une saison blanche parce que Tatum, la saison, elle est out. Ils parlent de trader tout le monde, alors je sais pas avec qui ils vont jouer. Ouais. On changeait le propriétaire, je crois que le propriétaire il payera pas tout ce que payait l'ancien propriétaire, et Ouais. Boston va un peu se...
La hiérarchie risque d'être un peu
revue. Ouais. À l'Est, ouais.
Alors justement, on reste toujours à l'Est avec New York, toujours sans coach. Après une belle boulette de gestion de dossier, on va dire ça comme ça. Hein. Quand tu limoges le mec qui t'a fait progresser jusqu'au final de conf et que t'as rien prévu derrière, avec en plus l'interdiction de téléphoner aux cibles potentielles, bah tu te retrouves à supplier des mecs limogés en cours de saison avec autant d'entrain que pour trouver un médecin généraliste. Autant dire que New York a mal préparé son rêve d'ascension.
Bah déjà, la dernière fois, quand le limogeage avait eu lieu, on venait de prendre l'antenne et on était tous un peu surpris.
Ouais.
Parce que le mec, quand même, en 3 ans, à chaque fois, il les a fait monter d'une marche, jusqu'à les emmener en finale de conf. En plus, ça avait l'air d'être un coach qui était aimé des joueurs.
Tibes.
Donc, et là, c'est vrai qu'il se retrouve à avoir personne. Je trouve que le successeur est long à arriver. Jacques, t'es pas dispo pour aller entraîner New York ?
Jacques, c'est le moment. Là.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est le 3e ou 4e coach qui a le meilleur pourcentage de victoires sur la création depuis la création des Knicks. Donc, en fait, c'est là où tu dis. Pourquoi remplacer, pour mettre qui à la place, en fait.
Alors, les critiques, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais elles tournaient autour du fait que voilà, New York avait atteint son plafond de verre, qu'il ne pouvait pas aller plus haut, que l'effectif, Thibodeau joue avec 7 gars, là où les Pacers et OKC jouent avec des rotations de 12 joueurs. Ouais, tu veux rebondir, vas-y, t'as un truc.
Oui, c'est ça.
Ouais, approche-toi, vas-y. Toi, c'est comme ça que tu vas. Toi, t'es pour le limogeage de Thibodeau. Tu penses que, c'est justifié, quoi.
En fait, le problème de Thibodeau, c'est qu'il joue pas avec assez de joueurs, en fait. Il fait pas confiance en son banc. Il tourne à 6-7. Après, là, il y a toujours les 6 avec Boston, Tatum out, etc. Mais c'est compliqué, en fait, parce que lui, il joue comme ça toute l'année et il arrive au playoff. Les joueurs, ils sont tous cuits à chaque fois. Donc, c'est. Je trouve que c'est
une gestion
d'aller loin, en fait. D'aller loin, les joueurs, ils sont cramés au bout d'un moment. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est généralement, c'est qu'il y a un joueur qui va se blesser, malheureusement, en demi-finale de conf ou en finale de conf. Et l'année dernière, ils avaient perdu un ou deux joueurs contre Indiana.
Progressivement, Brunson avait fini blessé aussi.
Ouais. Les mecs, ils jouent 48 minutes, voire plus. Donc forcément c'est compliqué, donc
si encore il est géré en saison régulière, on pourrait dire, hein, mais ouais. Là effectivement t'as raison, il tourne avec cet effectif là du début à la fin.
Tu vois, moi ce que je comprends pas à New York, c'est que en fait bon, tu limoges ton coach, voilà, pourquoi pas, t'as pris une décision. Mais je pensais que dans la semaine, en fait, on allait avoir le nouveau nom.
Tu pensais qu'ils avaient déjà une idée derrière.
C'est ça, en fait. Ouais.
Et là, ils se retrouvent à appeler des joueurs où les franchises ont fait non, vas-y.
Jason Kidd.
Je pense qu'il était bien ciblé, Jason Kidd. Avec ce qu'ils lui ont fait dans l'année, je pense qu'ils se sont dit il va partir assez facilement. Et Dallas ne veut pas le laisser communiquer. Mais et les noms qu'ils annoncent là,
ça fait pas rêver.
Jenkins, bon,
c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Bah pour New York, ça vend pas du rêve. Tu dis tu remplaces Thibodeau par ces mecs là.
Ouais.
Voilà, c'est ça en fait.
Ok, on passe à l'actu suivante.
Allez.
Alors on va se recentrer sur la France et la finale de Betclic Elite. Paris avait l'occasion hier soir de faire le break face à Monaco. Avec un match dans le match, puisque le prince de Paris, Nadir Richie, est au centre des convoitises entre les deux clubs. Hein. Donc le Rocher voudra en faire le successeur de Mike James la saison prochaine. On a parlé de Mike James lors de la dernière émission, je vous invite à...
Il jouera pas les finales, hein,
Mike. Ouais, oui, de toute façon, ça sent le sapin pour Mike James. Enfin, moi, à Monaco. Tandis que Paris, eux, n'entend pas renoncer à sa pépite, nommée cette saison, je rappelle, un meilleur espoir de l'Euroleague. D'autant plus qu'on sait déjà que l'effectif parisien, l'année prochaine, aura plus du tout la même tronche, puisque tout le monde se fait la malle.
Le coach, surtout, déjà.
Alors, le coach, Thiago Splitter. Le MVP, mais alors de loin, parce que TJ Short, on va revenir sur le match après, derrière, TJ Short qui fait une fin de saison incroyable. Joue son mode 74, je crois. Qui met tout le monde à l'amende et qui... Non mais incroyable.
Les demi-finales et deux matchs de finale, il n'est pas descendu en dessous de 25 points.
Bon, voilà, ça te donne le niveau du gars. Qui, visiblement, partira au PANA. Donc,
c'est fait.
C'est fait, c'est réglé.
Ça a même été annoncé par le président du PANA.
En tout cas, TJ Short, on fait un coucou à Mathieu qui a eu sa paire de godasses offertes par TJ Short.
Sur Facebook, j'ai vu, tout le monde a liké, bien.
Par contre, moi j'ai une petite remarque à faire sur le coup. Tu vois TJ Short, tu lui demandes ses pompes, moi j'aurais demandé son short. Ok, elle est belle. Ouais, j'arrête là. Bah justement, alors, le match, il n'y a pas eu de match, on va le dire clairement. Monaco est reparti avec, de Paris avec les fesses encore plus rouges que leur maillot. Mmh. Ils ont pris 26, je crois. 26, plus 26.
90, 67, je crois.
Ouais, enfin, ça, 92. Ouais, c'est 7, une ouais. belle raclée, quoi. Il n'y a pas eu de match, et a priori.
Et il n'y a jamais eu de match, en fait.
Ouais.
L'écart s'est fait
dès le départ.
Tout de suite. Il n'y a jamais eu l'espoir que Monaco revienne à un moment, qu'il y en ait un qui prenne feu. Même ceux qui marquent d'habitude beaucoup de points, ils ont du mal dans cette finale. Alors certainement qu'ils sont bien pris. Et je pense surtout que Paris est en mission pour ramener quelque chose avant que tout le monde parte.
Ouais. Ok. Petite question, puisqu'on a fini la rubrique info, justement, les gars, est-ce que la Betclic Elite, alors c'est vrai que le nom ne fait pas NBA, mais c'est mieux que la boulangère Wonderleague, hein, quand on.
Ouais, c'est quoi ouais. vos rythmes de vision des matchs?
Voilà, quoi. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est un autre monde?
Moi, je suis plus la NBA que la Betclic Elite. Souvent, je regardais des résumés, en fait, vraiment sur YouTube, voir les meilleures actions du match.
Ok. Ouais.
Mais sinon, pas tant que ça.
Faisal, toi, tu suis un petit peu hein?
Non, moi, c'est principalement la NBA aussi, avec NBA Extra, mais tout ce qui est haute fédération de basket dans le monde, je regarde pas trop, à part ce qui se passe, les grands événements qui se passent sur les réseaux sociaux.
D'accord. Et Coupe du Monde, tout ça? Ouais. Toi, je sais que Jacques, tu suis un petit peu tout.
Moi, ouais, j'ai quelques potes qui sont dans ces équipes-là. Donc oui, on reçoit toujours des vidéos. Il y a des fois quelques discussions WhatsApp. Donc je le suis moins que la NBA, je ne vais pas mentir. Mais oui, forcément, on a quand même des retours. Surtout pour Paris, parce que moi, je suis issu de la région parisienne. Donc j'ai le gros contingent des amis est là-bas. Et j'ai quelques potes qui y jouent. Donc,
Toi qui es sur Paris, enfin qui viens de la région parisienne, justement, je t'ai pas posé la question, c'est vrai que t'es à côté de moi, je t'ai pas.
Moi.
Je suis un petit peu aussi, Betclic Elite.
Betclic, je suis pas trop, moi, c'est vraiment NBA. Après, des fois, je vais tomber sur des matchs ou des grosses affiches en live, mais sinon, non, je suis pas plus que ça.
D'accord.
Dommage.
Moi, je vais vous dire franchement, je me suis mis depuis cette année, en fait, vraiment. Non, mais c'est vrai, moi, c'était pareil, c'est culture après, NBA. Donc,
après, il y a Paris qui a fait une grosse hype.
Mmh. Ah ouais, carrément.
Qui a relevé vraiment la Betclic Elite. Donc,
Ça, c'est fou. Hein. Cette année, c'est vrai que même leur salle, l'Adidas Arena, qui est vraiment une petite salle NBA, on en a déjà parlé dans l'émission.
Très belle salle.
D'y aller.
Très belle salle. Ouais.
Et donc, du coup, toi, Jacques, quand on est de la région parisienne, on supporte qui?
Bah, tout le monde. Que ce soit au foot ou au basket, quand tu es de la région parisienne, tu suis Paris, en fait, indirectement.
Donc, Paris Basket.
Tu le suis un peu plus. Bah évidemment, quand t'as des copains ou des amis qui y sont. Mais c'est vrai que...
Nanterre, par exemple.
Après, je sais pas si c'est le basket qui fait ça, mais l'engouement, il s'est pas fait tout de suite pour Paris au niveau basket. C'est vrai que c'est pas... Tous les basketteurs de Paris, ils sont pas à fond sur Paris, en fait. Mais ça, je pense que c'est plus l'effet du pays, quoi. C'est le pays... Et après, ben, l'appétit vient en mangeant. Donc, effectivement, quand ça gagne, quand on commence à voir... des joueurs, voilà, des Nadiri Fils, c'est bien, parce que Nadiri Fils, ça représente un peu des joueurs qu'on connaît un peu partout, c'est le genre de mec qui te met 2, 3, 4 shoots, et dès qu'il met dedans, tout de suite, ça lève les foules, les gens, ils sont à fond. Et donc, voilà. Donc, quand t'as des joueurs comme ça, et que la mayonnaise prend, et qu'il y a des victoires qui commencent à s'enchaîner, bah, tu te prends un petit peu au jeu. Mais c'est vrai que l'adhérence au basket pour Paris, c'est pas encore foufou, quoi.
Et ce qui était très bien, quand on parlait de l'Adidas Arena, c'est que les places étaient quand même très, très, très abordables cette année-là. Et on avait de la chance d'aller voir des très beaux matchs pour pas cher.
Ouais, c'est vrai. C'est encore...
Ils n'ont pas abusé sur les places, c'était bien.
Ok, il est l'heure de lancer la rubrique suivante. T'es prête, Marie?
Oui.
T'es parti. Ok, c'est le moment de Marie, notre Amazon du ballon rond, qui va vous décortiquer les résultats en WNBA et faire le point un peu sur le championnat. Marie, on t'écoute.
Ok, alors d'abord, on va commencer par parler des classements. Donc on a toujours le New York Liberty qui est leader de la conférence Est, avec un bilan de 10 victoires et une défaite.
Ils ont perdu cette semaine.
Ils ont quand même perdu.
Ouais.
Et il y a aussi le Minnesota Lynx, qui est aussi toujours premier à l'Ouest, avec aussi une défaite pour 11 victoires. C'était une défaite lors de la lors de la Commissioner's Cup, qui est l'équivalent de la NBA Cup chez les garçons.
Ça, c'est bien qu'il ait lancé tout de suite aussi, je trouve. Ouais. Hein.
Et du coup, cette défaite, c'était contre les Seattle Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga. Et on connaît déjà les finalistes de cette Commissioner Cup. C'est Indiana Fever avec Caitlin Clark.
Yes. Ouais, alors Caitlin Clark, ouais. Tu vas nous en parler forcément, Caitlin Clark.
Qui représente du coup l'Est, et ils ont battu le Sun 88-71. Et à l'Ouest, c'est le Minnesota Lynx du coup qui a battu les Las Vegas Ace sur le score de 76-62.
Donc New York s'était fait... Pourquoi New York s'est sorti
avant ? Oui, ils sont perdus avant contre... je ne me rappelle plus trop, je crois que c'était le Fever.
D'accord, ok. Donc, grosso modo, les bonnes équipes sont quand même présentes. On parle de Caitlin Clark vite fait. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux les tampons qu'elle se prend sur le...
Ouais, elle les cherche bien.
Jacques, tu as réagi quand tu as vu Caitlin Clark. Est-ce que c'est Caitlin Clark ou c'est le Fever ou c'est... Pardon.
C'est Caitlin. Non, mais parce qu'en fait, elle, j'ai pas trop compris au début pourquoi on parlait beaucoup d'elle au début. Parce que on comprenait pas trop, parce que son équipe était pas trop bien classée. Et après, il y a eu les histoires avec lesquelles elle avait pas été prise en sélection américaine. Ouais. Moi, c'est à partir de là, du coup, que j'ai commencé à regarder un peu plus. Et effectivement, je me suis dit, ah, c'est bizarre qu'elle soit pas prise, parce que c'est une shooteuse assez incroyable. Voilà. Elle joue, c'est dingue. Moi, ce qui me plaît aussi dans cette hype Indiana, c'est que les filles viennent voir les garçons, les garçons viennent voir les gars. Et c'est assez rare que garçons et filles d'une même franchise se soutiennent comme ça. Donc ça, je trouve ça vachement bien. C'est et c'est vrai qu'effectivement, alors, c'est clair que sur un terrain, elle va au carton et voilà, elle y va avec tout ce qu'il faut y aller. Et qui apprend des sacrés tampons, mais il y a des vrais games. Franchement, il y a des vrais games.
Ouais, je sais pas si je l'ai mis sur le Facebook de l'émission, mais je le mettrai. Vous irez jeter un coup d'œil, parce qu'on parle souvent, on pense au basket rugueux de la NBA ou des Pistons, etc. Là, franchement, les femmes, elles ont rien à envier aux hommes dans ce domaine. Oh, excuse-moi, on t'a coupé.
Mais du coup, en parlant de Caitlin Clark, elle est revenue de blessure parce qu'elle s'était fait mal au genou avant, et son match de retour, il a attiré beaucoup de monde. Et du coup, il a réuni près de 2,8 millions de téléspectateurs. Et c'est un record pour le basket féminin, surtout la WNBA.
Ça, c'est fou, ça. On disait que les audiences de la WNBA dépendaient en fait de Caitlin Clark en grosse partie. Ça, c'est incroyable, alors qu'il y a des super joueuses qui arrivent aussi.
En parlant d'absence ou de retour, il y a la MVP en titre, Aja Wilson, qui a été mise en protocole cérébral parce qu'elle s'est pris un coup à la tête... depuis le 13 juin, et elle est toujours pas revenue sur les parquets, donc on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir.
D'accord, du coup c'est ma fille Zakolière en ce moment qui prend le lead pour le titre. Ouais.
Et dernière personne qui a marqué cette semaine, c'est Angel Reese de Chicago, qui a réalisé son premier triple-double en carrière. 11 points, 13 rebonds et 11 passes. Et elle devient la deuxième plus jeune à réaliser... un triple-double en match double NBA. La première, c'était Caitlin Clark.
Eh ben, on parle d'elle.
Voilà.
Okay.
Maintenant, on va parler de Gabby Williams, qui est l'une des joueuses les plus complètes et impactantes de cette saison.
Française, Cocorico.
Française, oui. Mais... elle joue au Seattle Storm. Elle tourne à 14,5 points de moyenne, 4 rebonds, plus de 4 passes et surtout plus de 2 interceptions par match, ce qui fait d'elle la meilleure interceptrice de toute la ligue. C'est cette nuit, elle a réalisé un nouveau record pour la franchise des Seattle Storm en faisant 8 interceptions.
Pas mal. Comme moi, le joli.
Elle a aussi mis 11 points et elle fait 7 passes décisives pour mener son équipe vers une victoire contre les Los Angeles Sparks. Elle a aussi une très bonne efficacité à 3 points avec près de 50% de réussite, ce qui lui permet d'être efficace dans toutes les zones du terrain, et elle est donc indispensable des deux côtés du terrain pour pouvoir mener les Seattle Storm vers le titre, pourquoi pas.
Si elle vaut le titre, ouais, pourquoi pas.
Et aujourd'hui, il y a aussi le début de l'Eurobasket féminin.
Ah, ça, c'est important aussi.
Qui se déroule dans 4 pays hôtes, donc la Grèce, l'Italie, la Tchèque, et l'Allemagne. Donc les 4 équipes, elles sont forcément qualifiées pour les phases de poules. Donc il y a 4 poules qui vont se faire donc chacun dans un pays différent, avec 4 équipes par poule. Et les deux équipes de chaque tournoi, ils seront qualifiés pour chaque poule, pardon, ils seront qualifiés pour les quarts de finale, qui se dérouleront par contre en Grèce.
Spécifiquement.
Ouais, tout finit en Grèce. Ouais.
D'accord.
Et bah, du coup, la France, elle a joué son premier match tout à l'heure à 16h30. Elle a gagné de 2 points contre la Turquie.
Alors, ils ont été derrière tout le match. Hein. Ils ont été derrière tout le match et ils sont passés devant dans le dernier quart-temps. Ils ont mis un 13-5 avec 3 tirs à 3 points alors qu'ils n'en ont pas planté un du match. Et...
C'est une victoire à la
pression. Franchement, on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, tout le match, elles ne vont jamais y arriver. Tu te vois tout le match, tu es à moins 6, moins 8. Tu reviens à moins 2. Et quand tu reviens à moins 2, pouf, tu reprends un éclat, tu repars à 6. Et dans le dernier quart-temps, ils ont enfin mis des 3 points. Ils en ont mis 3 de suite et ça les a fait passer devant. Et après, ils ont quand même bien géré, quoi. On sent qu'il y a un peu de maturité dans l'équipe. Vas-y, finis.
Du coup, c'est quand même les vice-championnes olympiques qui entrent dans le tournoi avec un statut de favorite, malgré les nombreuses absences qui n'ont pas pu se libérer avec leur contrat en WNBA, comme Marine Johannes, Gabby Williams, Dominique Malonga ou encore Carla Leit. Il y a aussi la blessure de Marine Fotoux qui se fait une grosse entorse au genou. Du coup, elle n'a pas pu jouer. Et du coup, lors des phases de qualification, la France elle a largement dominé son groupe. 6 victoires et 0 défaites.
C'est qui le principal rival des Françaises là ?
C'est la Belgique.
La Belgique.
D'accord. Et c'est les championnes en titre. Et ils ont quand même Emma Mesman et Julie Van Loo, qui sont deux bonnes joueuses qui jouent très bien ensemble et qui se connaissent depuis super longtemps.
Ok, la finale c'est quand ?
Le 29 juin. Et okay. Avec une couronne de champion d'Europe à la clé.
Tu vas nous débriefer ça dans la dernière émission de Money Time du coup.
C'est ça.
Ouais. Ok, super.
Pour finir sur les j'ai oublié ce que je voulais dire, dis donc.
Voilà.
Oh, voilà.
Ah, du coup, on envoie Lil Wayne. Okay. Kobe doing work. 2-4 on my shirt. He the greatest on the court, and I'm the greatest on the verse. Going for the 4th ring like it was his first. Gotta get the gleam. Do it for Kareem. 2-4 so nice. My flow so mean. Catch me at the game, sitting next to Goldstein. Kobe Bryant Nikes, purple gold strings. Kobe in the game, dunking on the whole team. Black Mamba, attack conquer. Basketball beast, rap monster. Crossover good, a turnaround jumper. I'll just drive the lane and dunk on dunkers. You know where it's going down, yo. This is the lake show, but don't drown, though. I call him King Bryant, not let the crown show. Watch me get him like Kobe, yeah. Sick with it, no Kobe, yeah. Black clouds break open, yeah. Rain down black roses, yeah. I smell the rose and I'm focused, yeah. The game's cold, but I'm frozen, yeah. The lanes are closed, but I'm bowling, yeah. All mine, but no Cobras, all around, no borders, all eyes take notice. Recognize my importance, never die, I'm immortal. Got the culture on my shoulder, I see the vultures flying over. So now we marching like we soldiers, until we walking like we strolling, yeah. Sit the poison, my last game, like that's game, yeah. Yerp. Put 5 rings on my last name, Oscar could have been my first. On one leg, on my last leg, on the last shot, that's work. No Achilles heel like Tofield, it's the last dance like twerk. Hold a gold beating on my chest and goes right tap tap. This is black entertainment, baby. This is black power status, yeah. 2 fingers for the mama seat, I'm screaming black mama matters, yeah. Heart goes out to Vanessa and the whole black mama family. BMF, heart of gold beating on my chest and it goes rat tat tat, yeah. This is black entertainment, baby. This is black power status, yeah. 2 fingers for the mama seat, I'm screaming black mama matters, yeah. Heart goes out to Vanessa and the whole black mama family. BMF, yeah. BMF, on BET, yeah. We the best, yeah. We the best, on G-O-D, yeah. We the F, yeah. It's with the F. G-O-A-T like Kobe B. Rest in power and soul for peace. Black lives matter, facts. As a matter of fact. Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9, l'émission qui sent la sueur, qui a le goût des larmes et du sang, mais qui, et c'est assez paradoxal, envoie du bonheur. Le morceau à l'instant, Lil Wayne, ce morceau s'intitule Kobe Bryant, qui s'est quand même illustré notamment à Rucker Park lors d'une session d'anthologie. C'était en 2002, donc sur un playground américain mythique, juste après son triplé. Les gars, Kobe, est-ce que c'est une ref spéciale sur les playgrounds ou pas spécialement ? Fais sale.
Bah, pour moi, ouais, c'est une grosse référence parce qu'il a un peu un style...
Street ?
Street déjà est très individualiste, donc ça résonne beaucoup avec le streetball. Donc forcément, oui, il prend beaucoup de shit compliqué. Il a un style de jeu très très joli à voir, très
très beau. Ouais. On n'a pas fait encore d'émission spéciale sur Kobe, et il faut absolument qu'on en fasse une, parce que c'est quand même une des légendes des 30 dernières années. Si ce n'est pas la plus belle légende après Jordan, il y aura toujours débat sur LeBron, etc. La mort de Kobe, ça a été ressenti aussi sur les terrains. Tout le monde faisait la gueule au sablon, tout le monde vous en avez parlé.
Ah, faire la gueule, on va pas déconner quand même.
Non.
Mais... Si, ça a touché les gens. Après, le Kobe, il y a aussi... Il faut qu'on parle de génération. Parce qu'il y a des gens qui le connaissaient bien, il y en a qui le connaissaient un peu moins bien, parce qu'on n'est plus dans la génération Kobe depuis longtemps. Hein. La génération Curry, Ja Morant. Mais malheureusement, comme beaucoup de grands artistes, c'est son décès qui ont fait que certaines personnes ont commencé à s'y intéresser. Et effectivement... Grosse tragédie dans le basket, quoi.
Ok. Alors justement, on va rebondir rapidement, parce que le temps nous presse un petit peu. On va rebondir sur les finales NBA qui ont lieu en ce moment. Vous savez que c'est... vous savez tous, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de basketteurs qui ne suivent pas un peu ces finales NBA, même si ce n'est pas les plus hypantes, on va dire. Normalement, en tout cas, Indiana, ce n'était pas un gros marché. On en a déjà parlé dans l'émission précédente. Mais en termes de jeu pratiqué, je ne sais pas moi, vous, mais moi, je me régale. Sincèrement, je trouve que c'est une très, très belle finale de très haut niveau. Il y avait le match 5, qui est souvent un match charnière dans les séries, surtout quand les équipes sont à 2-2, qui a été remporté assez, je ne vais pas dire facilement, mais en fait, il y a un paramètre. Hein, Liberton a complètement foiré son match. On sent que les Pacers derrière ils étaient un petit peu pris à la gorge. Et le match a fini sur un gros éclat de.
Ouais, mais tu le sens de toute façon dans les matchs que OKC sont plus forts. Tu le sens dans les matchs. Mais alors, Indiana, il joue avec le cœur et il y a toujours un mec qui est capable de piller 20 points. Moi, là où je ne suis pas content du match 5, c'est Haliburton. Il est blessé. Tu le fais pas jouer. Le mec, il a une élongation. C'est pas rien, une élongation. Puis tu vas le retrouver comment dans le match 6 ça sert à rien. Mais, il a plus fait de mal à son équipe en étant sur le terrain qu'en ne jouant pas. Quand tu vois l'autre McDowell, là, McConnell, il est incroyable, lui. Moi, ce mec-là, j'adore.
Carlisle a dit qu'il était cramé, que c'est pour ça qu'il avait fait se reposer. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la gestion de fin de match. On a quand même l'impression que. Moi, je trouve que le match qu'il fallait pas perdre, c'était le match 4.
Ouais, le match 4. Ouais,
le match 4, je trouve qu'ils l'ont lâché, en fait, Indiana, plus qu'encore qu'OKC l'a gagné, je trouve. Non, vous êtes d'accord?
C'était vraiment une grosse opportunité, surtout que. Dans tous les cas, ils pouvaient revenir avoir deux chances pour gagner. Franchement, je pense que le tournant de la série, c'est le Game 4. Déjà, on ne s'attendait pas à voir Indiana à 2-2, franchement. Mais déjà, de les voir à 2-2. Moi, perso, je ne m'attendais pas. Moi, je voyais un 4-1.
La plupart des pronostics, c'était quand même un 4-1, voire 4-2.
Ouais, mais quand tu regardes OKC, le premier match, ils ne doivent jamais le perdre.
Oui, bah oui.
Ils ne doivent jamais le perdre, le premier match. Mmh.
3 dixièmes de seconde devant.
Moi, le Game 5 a fait que je suis parti dormir très énervé. J'ai eu vraiment du mal à dormir. Ça, parce qu'en fait, maintenant, pour la plupart aussi, on est joueur, on est coach maintenant. Donc, du coup, on regarde le basket différemment de ce qu'on pouvait faire avant. Où avant, tu regardais les dunks, les matchs, les gagnés, perdus.
Quand t'es gamin,
maintenant, du coup, en tant que coach, du coup, tu peux regarder un peu le match un peu autrement sur les changements, les stratégies et compagnie. Ouais. Le Game 5. Moi, je dis, j'ai pas de parti pris parce que j'aime bien Shea, j'aime bien Haliburton, il y a Siakam que j'aime beaucoup aussi.
Ouais, super joueur.
Donc, j'ai pas de gros parti pris, mais j'étais vraiment énervé à la fin du match. Parce que, en fait, tu mènes autant et lâcher les trois dernières minutes comme ça et de prendre un run pareil et puis il n'y a pas de temps mort. J'ai eu du mal à dormir. En fait, j'ai pas compris la gestion de fin de match des Pacers. Sur le Game 5, c'est.
Ils ont fait leur gros effort pour revenir, en fait. Ouais. Parce qu'ils étaient à moins 18, à un moment, ils sont à moins 2. Et c'est vrai que c'est quand même un scénario qu'on connaît bien en basket, quand l'équipe qui est à moins 20, qui revient, arrive à un moment, on lâche toujours et l'équipe repart. Mais c'est vrai que sur cette période. Le coaching, il n'a pas été
défaillant. Bon, après, clairement, on ne va pas se mentir, hein, le niveau de l'individualité, entre guillemets, d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander fait des finales magnifiques,
oui.
Mais Jalen Williams, qui avait quand même une partie de... Jalen Williams avait une partie des clés de la série. Là, clairement,
mal, hein.
Il a démarré 33 tonnes et
fait mal, hein.
Tout le monde là.
Fait
vraiment mal, hein. Très très mal dans ce match, c'est assez impressionnant. On suivra ça avec intérêt parce que la dernière émission de Money Time, on aura l'occasion de revenir sur ces finales. Mais on espère quand même C'est cette nuit ? Non, c'est la nuit prochaine.
La nuit prochaine,
c'est la nuit prochaine. Tout le monde espère quand même qu'Indiana va remporter le prochain.
Bah oui.
Pour avoir un
Game 7.
Game 7
barbecue chicken.
Ouais. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas s'entêter à vouloir faire jouer à Liberton s'il est blessé. Quoi. C'est un gros... Parce que Liberton, est quand même, il a quand même déclaré « si je peux marcher, je peux jouer ». Il y a une différence entre pouvoir marcher et pouvoir jouer. Hein. C'est pas les mêmes efforts. Et
je confirme.
Ouais. Et les élongations. Quand tu forces sur une élongation, c'est jamais bon.
Juste une dernière question, les gars. Est-ce que vous avez une équipe ou un joueur fétiche autour de cette table?
Dis-le. Dis-le.
Kevin Durant.
Ah bon,
okay. C'est un bon choix.
Comment ça se fait?
Parce que c'est.
C'est le prénom qui disait. Hein.
Ah, c'est le même prénom,
hein. Ouais, c'est ça. On a le prénom. C'est ça.
Dans le style, tout ça, t'inspire?
Le style, depuis longtemps, franchement, moi je suis les équipes où il va, hein, seulement.
Là, tu vas suivre Miami.
Et alors, il va aller où? Aux Spurs? Tu espères où?
J'espère les Spurs, après, je sais pas.
Moi j'espère juste qu'il aille dans une équipe où il va
pouvoir... Aux Spurs, c'est chaud. C'est aux Spurs, là...
Ah bah là, franchement, c'est super compétitif tout de suite.
Bon, moi je vous le dis pas.
Toi, tu n'as pas le droit de dire,
j'ai pas le droit
de parler. Marie non plus...
Moi, pour rejoindre Kizzy, c'est Kevin Durant aussi. Hein.
D'accord, ok.
Merci, bon. Jacques.
Ouais.
C'est pour le prénom aussi?
Non, c'est pour le talent. Être aussi mobile et aussi adroit avec cette taille,
ouais.
C'est vraiment incroyable. Quoi.
Super joueur. Mais c'est certainement le meilleur attaquant de sa génération.
Oui.
Enfin, pour moi. C'est pas. Attaquant, je parle. Fais ça, toi.
Bah moi, actuellement, c'est Anthony Edwards que vraiment je kiffe depuis la saison, enfin les playoffs de l'année dernière. C'est vraiment, il m'a impressionné de ouf avec son style de jeu, sa mentalité, comment il approche le jeu quand il joue, quand il est sur le terrain, et ce qu'il apporte à son équipe et aux autres. C'est vraiment, j'aime trop.
Ok, on lui en a mis plein la gueule dans cette émission. Donc, du coup, il ne faudra pas que tu écoutes les émissions précédentes.
Ant-Man reste fourmi.
Ouais, Ant-Man se transforme en fourmi. Jacques, vas-y, toi.
Trogiste.
Bah, moi, au tout début, enfin, celui qui m'a fait aimer le basket, au tout début, c'était Magic Johnson. Parce que je trouvais le côté showtime, les passes, je trouvais ça complètement ouf. Quand j'ai commencé à jouer au basket, je m'étais plutôt identifié à Pau Gasol.
Ah ouais.
J'aimais bien le style post 4, j'aimais bien son style. J'aimais bien. Puis après, je me suis tout de suite, j'ai kiffé LeBron James, hein, parce que pour moi c'est vraiment un joueur hyper complet.
Ah ouais.
Et le fait de finir top 10 all time en interception, passe, point, ça en dit long, quoi. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a Kevin Durant, à un moment donné, il y a LeBron.
On est d'accord.
Des choses, quoi.
Encore un autre débat.
Ah, faut dire les choses à un moment donné.
Ok.
Tout le monde a bon goût quand même. On va pas.
Ouais, ça va. Il y a de la ref,
Attends, il y a Rémi.
Vous connaissez John Paxson?
Ouais. John Paxson. T'es le seul mec qui est fan de John Paxson. À part sa mère. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle kiffe John Paxson, sa mère. Non, sans déconner. Rémi, c'est quoi ton équipe préférée?
Bah, c'est MJ. Ouais. C'est...
Ok, normal. Ah, ouais, The GOAT.
Mais MJ, c'est pour tout le monde, je pense. Hein.
Ouais.
MJ, on a tous.
On avait fait une mission spéciale Jordan en début de saison parce que. Voilà. Mais il faut.
MJ, c'est pour tout le monde.
Moi, je dis.
MJ, c'est pour tout le monde.
Et t'as vu qu'il va arriver à la télé. Hein.
Ouais.
NBC, il va discuter. Un petit contrat, là.
Ouais,
40 millions sur 3 ans pour faire 3 années de. Il va venir débriefer la NBA sur la chaîne de télé. Ouais.
Intéressant.
Ok. Bon, messieurs, le monde de la NBA a ses théâtres, le monde de la rue aussi ses théâtres mythiques. Rucker Park à Harlem, Venice Beach à LA, The Cage à Greenwich, et plus près de chez nous, Quai 54, Playground de Pigalle, Stalingrad, ça vous parle? Mais nous, aujourd'hui là, c'est spécial Sablon. Alors on va vous... Voilà, je vais vous demander d'échanger un petit peu autour de ce terrain qui est situé, allez, on va dire pas en plein cœur de Compiègne, mais il est quand même plutôt
Avenue de la Libération.
Voilà, c'est ça, faut donner l'adresse. Avenue de la Libération à Compiègne.
Voilà.
Les Sablons, alors, comment définir déjà l'ambiance Playground et l'ambiance des Sablons? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vas-y, Rémi.
Je vais pas parler, je vais laisser mes camarades parler parce que moi, on m'entend, on me connaît déjà.
Toi,
je vais laisser Jacques.
Je suis désolé, Rémi.
Abdoul.
Rémi, je suis désolé, mais il va quand même falloir que tu nous parles quand même du début des Sablons parce que moi, par exemple, pour ma part, je peux parler des Sablons depuis que je suis arrivé dans la région. Mais il y a forcément eu l'ère d'avant. Et moi, j'ai, pour le coup, je sais pas comment ça se passait l'ère d'avant. Donc là, pour vous, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passait.
Mais en fait, les sablons.
Les années 2098 au sablon, en fait.
Moi, j'y étais pas. Moi, je suis arrivé au sablon en 2005. À Compiègne, je suis arrivé à Compiègne en 2005. J'ai découvert les sablons en venant habiter à Compiègne.
D'accord.
Voilà. En 2005. Donc, et puis 2005, bah, c'est devenu mon terrain, tout simplement.
Ah, mais du coup, quand toi, t'arrives en 2005 au sablon, comment ça se passe? C'est ce que tu vois?
Alors, en fait, quand j'arrive au sablon, je suis tout seul. Je joue tout seul. Et
Tu peux préciser tout seul, c'est-à-dire?
Tout seul. Je joue tout seul. Pas problème. Et je vois sur le panier opposé trois joueurs. Donc, Laurent Mbebara, je sais pas si ça vous parle.
Non.
Non, ça te parle, ça te parle pas. Laurent Marchandise, par exemple, donc ça vous parle pas. Et un autre qui s'appelle Alexandre Delaroche. Voilà, c'était trois habitués des sablons qui sont partis de Compiègne. Hein. Mais c'était trois habitués. Et je leur avais posé la question, qui sont les personnages, les gros players des sablons? Ils m'ont tous répondu Mathias et Romain Méry, que j'ai connu quand je suis arrivé à Compiègne, lui il partait. Donc, à Compiègne, apparemment, avant mon arrivée en 2005, apparemment, ça joue au national à Compiègne. Je sais pas si.
Oui, c'est ça.
Oui. Tu es arrivé en 2005.
Oui, c'est ça. Ce qu'on m'a dit aussi. Oui, ce qu'on m'a dit.
Donc, voilà. Donc, Jacques, tu as connu Frédéric Diep.
Oui.
Donc, il a fait partie des Sablons aussi.
D'accord.
Donc, là, c'était avant moi. Donc, voilà. Et ensuite, moi, je suis arrivé en 2005. Bah, j'ai fait ma petite place avec mon jump jadis légendaire, parce que je l'ai plus trop aujourd'hui.
Ah, il sautait haut. Hein. Il a fait le concours de dunk Sprite.
Ouais, le concours de dunk Sprite.
C'était Sprite. Il était dans Mondial Basket.
C'était Sprite, ouais.
Il avait fait un truc spécial. Ouais, je me souviens.
Ah ouais, mais j'ai éliminé au premier tour. Mais bon, j'ai quand même marqué les esprits parce que, bon, pour ceux qui ne me voient pas, je suis de petite taille, on va dire. 1m74. Voilà. Et puis, on était en 1996, donc ça fait.
Ah, ça faisait encore plus petit.
Donc allez, les petits qui sautent haut à l'époque, c'était pas courant. Il y avait Spud Webb que tout le monde connaît. Voilà, puis bon voilà quoi, j'ai fait mon petit bout de chemin et depuis 2005, j'ai pas quitté le bitume des sablons et du coup, je suis devenu, je sais pas, malgré moi,
l'ambassadeur.
Voilà, c'est ça.
Voilà, l'ambassadeur, c'est
voilà.
Ça.
Le boss.
Alors, moi, un de ceux que je vois régulièrement au sablon, mais j'y suis pas, je vais y faire un tour de temps en temps, j'ai plus le garçon qui y va, mais fais ça, t'es souvent là-bas. D'ailleurs, on te reconnaît facilement avec ta chaise.
C'est la relève.
Voilà. Ta chaise,
la chaise de pêcheur.
Au départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est gouré, il veut pêcher, mais il y a du béton ici.
Oh, ouais. La chaise, c'est un concept que j'essaie d'importer.
C'est pas mal.
Ouais.
J'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime beaucoup.
C'est énorme. Mais ouais, non, le sablon, j'ai commencé en 2017, je crois. C'est comme ça que j'ai commencé le basket. J'ai commencé en street. Et ouais, bon, j'ai commencé, il y avait beaucoup d'anciens, Abdel, Touf, évidemment Rémi, parce que bah il sera là avant.
Il sera enterré au sablon, clairement. On va le couler dans le béton, Jacques, qu'est-ce que t'en penses?
Je lui ai toujours dit qu'on fera une fête et un événement absolument extraordinaire quand tu vas décéder. On fera un truc extraordinaire au sablon.
C'est bien.
Ouais. On mettra des fleurs, des pom-pom girls.
Ah, franchement, ça va.
Tout est prêt, on attend juste qu'il décède.
Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte qu'il arrive. Donc fais ça, toi, ouais, donc régulier. Il y a un jour où il faut aller au sablon? Si tu veux voir du spectacle, les jeunes qui nous écoutent, parce que moi je discute beaucoup avec des jeunes au collège, tout ça, ils me disent ouais, moi je veux jouer, tout ça. Je dis, ils me disent, tu vas où? Ouais, je vais jouer près de l'Oise, il y a un terrain, etc. Je dis, mais c'est pas là qu'il faut que tu ailles jouer, tu vas être tout seul là-bas. Va jouer au sablon. Donc si tu veux donner envie aux jeunes pour avoir un échantillon de ce qui se passe, du basket, vas-y Abdou.
Pour l'anecdote, moi c'est Rémi qui m'a fait découvrir les sablons.
Ouais.
Quand j'ai commencé le basket, c'était en 2016-2015. Je jouais sur un terrain à côté du collège André Malraux, pour ceux qui connaissent.
Ouais, bien sûr.
Et je l'ai croisé là-bas. Et après, on a joué. Et après, il me dit, tu connais les sablons et quoi? Je dis, non, je connais pas. Après, il me donne l'adresse et tout. Et c'est là que ça a commencé. Du coup, j'ai arrêté d'aller au terrain où j'étais et j'allais au sablon.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai découvert le sablon, grâce à Praise Rémi NSH.
Pas de problème.
Génial.
Je vais lui tirer quand même le chapeau, c'est important quand même. Les sablons, ça vit et les générations se suivent et on essaye de faire de ce terrain-là vraiment le point d'ancrage du playground à Compiègne. Il est référencé d'ailleurs sur Internet, chose que j'ai su il n'y a pas longtemps, ce qui est très très bien. Ouais, mais quand même, je tire mon chapeau à Rémi parce que vraiment, pour qu'il soit entre parenthèses le boss ou l'ambassadeur de ce lieu, il a fallu qu'il passe énormément de temps, il a fallu qu'il accueille des gens, il a fallu qu'il voilà, qui continue en fait à promouvoir le basket et
qui monte une assoce aussi, hein, parce que
voilà, il a monté une assoce. Donc ça veut dire que franchement, pour faire ça, pose-lui la question combien d'heures ou de jours ou d'années il a passé sur ce terrain-là. Des fois, des moments où il n'y a peut-être personne, où il n'y a peut-être qu'un ou deux mecs, mais lui, il est toujours là. Et en fait, quelque part, c'est lui quand même qui tient la flamme là-bas.
Ah oui. Donc, je tiens à le signaler
parce que c'est assez rare d'avoir. Pour qu'un terrain vive, il faut toujours qu'il y ait des gens ou des entités qui soient là aussi pour le faire vivre. Et vraiment, il en fait partie. Et ça, je tire mon chapeau. Ce sera le seul commentaire positif de l'émission.
De la soirée.
Merci. Okay.
C'est vrai que. En fait, l'esprit Sablon aussi, il y a, pour moi qui suis extérieur et qui suis arrivé après, qui regarde un petit peu tout ça avec du recul, parce que moi je joue en club, en loisir, mais même si j'ai joué gamin sur un terrain, c'est vrai que c'était pas tout à fait pareil à mon époque, mais il y a vraiment cette question de flambeau qui passe, qui dit. T'as aussi l'impression que les jeunes ils sont encadrés déjà. Ils font pas n'importe quoi. Il y a une espèce de respect. Moi je vois pas de bagarre au Sablon. Je vois pas d'emmerdeurs.
C'est très rare.
C'est vrai, c'est pas courant. Kizzy, qu'est-ce que t'en penses?
Moi je me rappelle que j'avais mis un coup de pression à tout le monde là, il y a pas longtemps. Vous étiez là ou pas?
Ouais.
Je me rappelle, c'était il y a deux ans je crois.
Non, il y a un an.
Mais le mec il parle jamais et quand il parle c'est pour mettre des coups de pression.
Ouais, il a mis des coups de pression à tout le monde toi.
Ouais, non, parce que ça... En fait, il y avait un peu cette ambiance un peu néfaste dans le sens où tu gagnes, tu perds, mais voilà. Malheureusement, tu perds. Des fois aussi, tu gagnes, mais faut respecter en fait le terrain et tout. Et ça commençait un peu à partir en embrouille dans tous les sens, etc. Donc voilà, faut remettre les choses, remettre les choses en place comme on nous l'a transmis avant. Parce que au-delà de ça, moi, les Sablons, je suis arrivé dans les années 2008, 2009, je me rappelle. Ouais, déjà. Ça fermait tôt. Tu vas pas être content de ce que je vais dire, mais. Avec mon frère, on avait escaladé le grillage, c'était fermé.
Ah non, mais... Moi,
on avait escaladé le grillage.
Le basket. Ah, c'était vous les délinquants.
D'ailleurs, dédicace à Doris, dédicace à Lia aussi en partant.
Dédicace à la police.
Ah, c'est ce que j'allais dire. Dédicace à la police.
Qui nous écoute. Donc dédicace à eux. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais découvert. Puis oui, ça se transmet dans le sens où y a des ados, donc on te force à jouer contre des adultes.
C'est vrai.
Il y a aussi ce truc où vous êtes en équipe de jeunes, vous voulez battre les plus anciens, donc...
Chose impossible.
Si, c'est impossible.
Ok, il va te dire la dernière fois qu'on a fait le match avec ses potes et les miens, ce qui s'est passé, il va te le dire. Dans la radio, il va te le dire. Il a oublié.
Ouais, c'est un choc à la tête.
Il a oublié.
Mais oui, sinon ça se transmet facilement.
Moi, je trouve ça super. La culture aussi, un peu, je vais dire, fashion, street, musique, rap, trash talking. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un mot sur est-ce que ça existe aussi au Sablon? Ça trash talk pas mal? Est-ce que
trash talk un petit peu, oui. De toute façon, il en faut un petit peu. C'est aussi. On parle de skate-bar, hein, clairement. Avec tout ce que ça entraîne. Donc le skate-bas, c'est du trash talk. Le skate-bas, ça joue physique. Le skate-bas, tu joues pour rester sur le terrain parce que tu perds, tu sors.
Voilà.
Le skate-bas, il n'y a pas d'arbitre. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te laisses influencer. Donc faut, pour gagner au Sablon,
il
faut que tu saches que tu vas jouer contre des gens qui savent jouer au basket.
Ouais.
Donc l'expérience, c'est leur terrain. Et ça joue dur. Et en fait, tu joues aussi pour rester parce que tu perds, tu sors. Donc forcément, si tu viens un peu gentil, tu peux te faire surprendre. Et c'est ce qui fait aussi que certains jeunes s'accrochent, parce que quelque part, ils savent qu'il y a du challenge, ils savent que ça joue.
Ça t'endurcit, en fait.
Et que du coup, ça t'endurcit. Et toutes les valeurs du skate-bas, c'est-à-dire le physique, le fait de ne pas avoir peur, de rentrer dedans et d'y aller, en fait, fait qu'après, quand tu arrives en gymnase, en général, tu arrives avec, on va dire, des qualités supérieures. Un joueur de basket qui vient du skate-bas,
j'allais
arrive au gymnase,
j'allais vous poser
il arrive forcément avec des petits trucs en plus, en fait.
Est-ce que un bon joueur de street est un bon joueur de club, ou inversement, un bon joueur de club devient forcément un bon joueur de street, ou c'est vraiment deux baskets différents? Parce que vous jouez en club, tous.
Ouais. Un bon joueur de club, c'est un bon joueur de street, forcément, parce que de toute façon, en club, t'as toutes les bases. Donc ça, c'est clair.
Ouais.
Un bon joueur de street, c'est pas forcément un bon joueur de club, mais le bon joueur de street va arriver avec des qualités que peut-être tu trouves pas en club. Parce que dans un gymnase, il y a des choses que tu trouves pas dans le skate-bas. Et je parle souvent de dureté, le fait de ne pas avoir peur, des gens d'aller au carton, d'aller au physique. Ça, dans le skateboard, c'est ce qu'il y a tout le temps. Donc quand tu arrives avec ça au gymnase, tu arrives avec des qualités en plus que certains n'ont pas déjà. Donc ça, c'est plutôt les bonnes choses.
Et ça, tu disais tout à l'heure, Kobe Bryant, moi j'aimais bien Kobe Bryant aussi, parce qu'il se rapproche du basket un peu street, c'est-à-dire que c'est le jeu NBA, c'est de l'isolation en street. Si t'as un passage, si t'as une brèche, tu la prends, tu t'emmerdes pas à savoir si tu dois faire une passe derrière ou si tu dois exécuter un système. Donc ce côté-là, iso, c'est vraiment propre au street, c'est plus développé qu'en club.
Ouais, c'est largement plus développé en street, et c'est surtout qu'en street, quand on tire à 3 points et qu'on fait que de rater, ou même n'importe quel shoot, on fait que de rater, on pourra prendre un autre shoot après. Alors qu'en club, ça dépend le club, mais quand on prend 2-3 shoots qu'on rate, souvent on est directement pénalisé. Alors qu'en street, on n'a pas ça. T'as raté, ok, prends ton rebond, défends, et derrière, le prochain tir, tu pourras le tirer, tu pourras le prendre, et tu pourras le mettre peut-être.
Abdou, toi, tu y es aussi régulièrement ?
Oui, quand même.
Ouais.
En fait, les sablons, si vous voulez, il y a... En hiver, donc c'est normal, il y a pas grand monde,
ouais.
Mais c'est souvent en
quoi été. Quoique Rémi, il est aussi en hiver. Hein. Rémi,
il dort là-bas.
Je suis tout le temps.
4 saisons. Globalement 4 saisons.
Rémi, c'est le troisième poteau.
Incroyable.
Le panier, c'est ça. Le troisième.
Incroyable.
Ouais. Non, dès que c'est praticable, j'y suis.
Ok. Donc Abdou, toi.
Ouais, moi j'y vais souvent, même en dehors du basket. Les sablons, ça a permis aussi d'avoir de créer des liens avec des personnes.
Vraiment.
Par exemple, moi Faisal, je l'ai rencontré la bosse.
Oh. D'accord.
Donc, voilà. Jacques aussi.
Vous avez dîné ensemble des premiers soirs. Voilà. Sablon, premier sur les rencontres.
Ok.
Même Jacques, c'est là-bas que j'ai connu, maintenant que j'y repense. Donc voilà, ça va plus loin que ça, au-delà du basket, quoi.
D'accord. Ok. Alors vous m'avez pas répondu. S'il y a un jour où les jeunes peuvent venir voir, découvrir, voir vraiment ce qui se fait de mieux au sablon, il faut
le week-end.
À quel moment ?
Le week-end.
À quelle heure ?
Week-end, il fait beau, vers
je veux des heures.
Non, week-end des vacances. Non, week-end des vacances. En fait, là, on va rentrer dans la meilleure période des sablons, parce qu'en fait, vu que l'école est terminée et que beaucoup de personnes sont en vacances, ça va même jouer la semaine. Mais clairement, le week-end, c'est là qu'il y a le plus de monde. D'ailleurs, de Compiègne et à l'extérieur. Je tiens à signaler que, parce que là on parlait de
faut être prêt.
Sablon.
Faut être prêt, parce qu'à 20-20, Faisal et Abdoul, ils annoncent plus les fautes.
non, c'est normal.
Mais après, ce que le sablon il apporte aussi au basket du club, c'est que ça joue dur. Les annonces, c'est des annonces quand il y a quelqu'un qui tombe, sinon ça annonce pas. Mais on va se dire, on va se frustrer, mais ça apporte beaucoup pour le club, donc c'est vraiment cool.
Alors, une dernière question qu'on va appeler notre buzzer beater. Allez, on le lance. A chance to send the Thunder home. Lillard, long range three. Le buzzer beater, c'est la spécialité de Money Time. La question du jour, NBA Playground, qui a influencé qui ? C'est l'éternel débat de l'œuf ou de la poule, mais il est impossible de ne pas relier les deux univers qui sont la NBA et le basket de rue. Joueurs mythiques qui ont fait le lien, de Dr. J à Stephen Marbury, en passant par Jamal Crawford, Rafer Alston, entre autres. Hein. Dress code de la rue et parfois des gangs exportés dans la Grande Ligue, avec notamment l'influence du Fab Five de Michigan, je ne sais pas si ça vous parle, ou d'Allen Iverson, tatouage de Tolar, bandana et rappeur célèbre, inspiré ou inspirant. De Drake, J. Cole, en passant par Notorious Big ou Tupac. Qui inspire qui ? Messieurs, vous avez 5 minutes. À peine.
Allez, c'est le bon.
Alors, qui inspire qui ?
Est-ce que c'est les playgrounds qui inspirent la NBA ? Est-ce que c'est la NBA qui inspire le plus les playgrounds ? Est-ce que c'est un jeu donnant-donnant ? Ça n'existe. Parce que la culture street, en fait, elle arrivait assez tardivement. Il y a que quelques joueurs. Il y a quelques joueurs. On a parlé d'Iverson, le Fab Five de Michigan avec Chris Webber, Dwayne Howard, Jalen Rose, qui étaient des joueurs qui portaient des shorts très très longs, qui ont apporté le style de la rue. Mais avant ça, on peut pas dire qu'il y ait vraiment une prédominance. Le playground, c'est un petit peu le côté gangsta rap aussi, et ça colle pas avec l'image que David Stern veut donner de la NBA. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que les liens sont beaucoup plus flous à l'aborder ? Je sais pas, comment vous le... Rémi, vas-y.
Ouais, moi, je pense que le basket de gymnase s'est exporté sur le basket de rue. Et parce qu'en fait, il y en a qui étaient trop frustrés sur le basket de gymnase, où ça siffle trop, c'est tout le temps arrêté et autres. Et les gens, ils ont besoin de rythme. Et par contre, je pense que le street a amené le 3-3. tu vois, le basket en 3-3 qui est aussi super sympa. Et tu vois, je pense que plus ça a eu cette évolution-là.
Maintenant, donc c'est une évolution dans le temps qui...
Exactement. Qui et après, tu as eu l'inverse. De la rue est arrivé tout le reste. De la rue est arrivé le rap dans le basket. Tout le côté habit, c'est aussi arrivé de la rue. Tu vois, en fait, je pense que ça a été vraiment une époque où d'abord, le basket a donné à la rue et après, la rue a redonné au basket. Et c'est pour ça que j'aime bien ce sport, parce qu'en fait, ça réunit toutes les classes sociales. Tout le monde peut jouer au basket. Il n'y a pas de frein à jouer au basket. Je veux dire, tu as juste à mettre une paire de baskets et aller sur
un panier quand même.
Le playground, ouais, et bah, faut aller au sablon. Voilà.
Alors, je tiens à dire aussi, tiens, rapidement, les sablons vont avoir des nouveaux paniers d'ici peu, normalement. Donc, on fait un petit coucou à la mairie de Compiègne qui a répondu positivement pour le changement, qui ont bien besoin, parce que fort, je dunkais régulièrement et c'est vrai que j'abîmais pas mal les paniers. ne riez pas. Donc, du coup, ça va donner un petit coup de neuf au sablon. Vous avez un dernier mot à dire sur ces échanges culturels ou sur cette identité, une anecdote à raconter sur les sablons, un truc qui vous vient comme ça à l'esprit?
Après, pour tout ce qui est planche, vous remercierez Fessal, hein, c'est à cause de lui.
Les briques, Marcel Labrie.
Non, effectivement, c'est de ma faute parce que je fais que de plancher Abdoul, du coup forcément ça abîme.
Ah, c'est à force de contrer Abdoul Ouais, ok, d'accord, on saura jamais. Kizit, c'est quoi les dégradations? C'est de qui?
Franchement, je sais pas.
Ça peut pas être moi, je fais que des switch. Ah,
c'est l'usure, on va dire que c'est l'usure.
D'accord. Ok, Jacques.
Moi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je prends toujours autant de plaisir à y aller et surtout à mater la génération jeune, parce que je pense que comme nous, on était jeunes, on aimait bien aussi battre nos anciens. Donc du coup, le fait qu'il y ait un gros changement générationnel au niveau des sablons, parce que là, on a beaucoup de jeunes qui arrivent et c'est vraiment top.
Super, c'est vrai qu'il y a...
Et en plus, c'est des petits jeunes qui lâchent pas, qui viennent souvent, on sent qu'ils ont faim du basket. Donc le fait qu'on puisse, nous, jouer contre eux et voilà, et les battre, et on fera tout ce qu'il faut pour les battre le plus longtemps possible. Et puis le jour où ils y arrivent, eh ben, tant mieux pour eux, parce que du coup, c'est aussi ça, la transmission de flambeau. Donc je trouve ça, c'est super top. C'est bien qu'il y a des joueurs qu'on connaît pas. Des fois, on arrive là-bas, on voit des joueurs qu'on connaît pas qui débarquent, qui ont entendu parler de ce terrain, et donc ça fait assez plaisir. En termes de niveau, il y a ce qu'il faut, donc j'invite tous les filles et les garçons qui ont envie de jouer au basket pendant les grandes vacances. C'est avenue de la Libération à Compiègne. Rémi sera là. Voilà. Rémi sera là pour vous
accueillir. Vous n'allez pas la rater. Si vous ne savez pas à quoi ressemble Rémi, allez voir le visuel de l'émission. C'est dans la version manga, là, c'est le mec qu'on voit le plus. Voilà. Et en plus, il y a un petit clin d'œil, il y a Can You Dig It qui est marqué sur le poteau qu'on voit.
Can You Dig It ?
Can You Dig It ? C'est juste après, d'ailleurs, dans l'émission. Il est temps de nous dire au revoir, les gars. Déjà, je voudrais vous remercier tous, les gars et Marie. Je voudrais vous remercier tous, c'était vraiment super sympa de partager ce moment-là. Il faudrait plus de temps à la limite, parce qu'il y a tellement de trucs à évoquer autour. Il y a des sujets, en plus, on a envie de rebondir dessus. Une heure, c'est court, mais c'était vraiment du kiff de pouvoir passer ce moment avec vous. La prochaine émission, c'est le 2 juillet. On parlera toujours en héros locaux du périple d'une jeune fille qui a franchi l'Atlantique pour vivre son rêve et intégrer l'équipe d'un lycée dans l'Alabama pendant presque un an. Et on aura peut-être la chance aussi d'avoir un super joueur qui s'est illustré sur les terrains militaires. Ouais, ça existe. Et qui nous partagera son parcours et son expérience effectivement de champion du monde, ni plus ni moins. Moi, je fais une petite dédicace avant de vous laisser dire au revoir à ma femme, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Oh, bon anniversaire.
Donc, gros bisous à elle, celle qui m'inspire au quotidien encore plus que Dwayne Wade, c'est pour dire. Ah, voilà, c'est du compliment. Un petit coucou à faire, vite fait.
Ouais, un petit coucou, surtout un rendez-vous ce week-end si vous avez rien à faire. Faut aller à Verberie, il y a un grand tournoi qui est toujours très bien organisé en extérieur. Donc c'est au collège de Verberie, c'est en extérieur.
Et ouais,
c'est samedi et dimanche.
Ok. Voilà. Petit coucou à faire, Kizzy, vas-y.
Pareil que tout à l'heure, hein, dédicace à TDN, YH, Amine, Zito, Melo, Doris, Lia encore. Et etc, etc. Et aller à Verbury ce week-end, il y a vraiment un bon tournoi, c'est super.
Tu le fais?
J'ai plus l'âge.
C'est que les jeunes, oh merde. Ok, les gars?
Moi, dédicace à toutes les personnes qui viennent au Sablon, n'hésitez pas à passer. C'est ouvert de 8h30 à 20h30. Et venez aux alentours de 16h, c'est là où ça joue le plus. Vous venez à 11h, il n'y aura pas grand monde, à part Rémi peut-être.
T'as enfin répondu à ma question, à quelle heure? Fais ça.
Moi, spécial dédicace aux Flamands et à Mimière, c'est tout.
Ok, Jacques.
Voilà, alors dédicace, alors moi je passe dédicace
attention.
Au basket minutes. Club de La Croix, spécial dédicace à Verbery, spécial dédicace à Marny, à Compiègne, à mes U15, à mes U20 qui nous entendent, là je sais qu'ils sont en train de, au U17 aussi, qui sont en train de regarder, d'écouter l'émission. Et puis bien sûr, on invite tout le monde à venir au Sablon, Avenue de la Libération à Compiègne, ça va jouer, et ça va jouer fort pendant les vacances. Donc si vous aimez le basket, si vous avez envie que ça joue dur, et que vous, vous aimez le challenge, on vous attend.
Si, si.
Et pour terminer... Le mot de la fin, Oudar.
Boss.
Un gros big up à tous les players, toutes les playeuses des Sablons qui font vivre justement ce terrain mythique de l'Oise.
Tout à fait.
Même de la région Picarde, t'inquiète.
Ok, on vous laisse en bonne main avec...
Can you dig it? C'est tout de suite, Matt.
Ciao, salut tout le monde.
Salut, poteau.
Ciao. Salut.
Ouais.